Une vie, une œuvre. Matsuo Basho.
Depuis les temps anciens, nombreux furent ceux qui se firent un nom en poésie. Tous ceux-là sont partis de la vérité pour rechercher la vérité. Notre maître, lui, sut doter de vérité ce qui était dépourvu de vérité et devint de la sorte un guide que l'on suivra longtemps. Vraiment qu'après tout ce temps, ce soit en ce temps-ci que le haïkai ait trouvé sa vérité, c'est à croire que le ciel aura attendu le talent inné de cet homme. Quel homme était-ce donc le maître?
Le maître Basho. Basho signifie bananier.
Hervé Collet.
Ce nom lui a été donné quand il s'est installé dans un ermitage près de Edo, c'est-à-dire Tokyo, aujourd'hui. Et un de ses disciples avait planté un bananier, donc un Basho, près de l'ermitage, qui en est venu à s'appeler Basho-an, c'est-à-dire l'ermitage au bananier. Et le poète, qui s'appelait Matsuo Kinsaku, a pris ce nom de plume.
Haranakaya, mono ni mo tsukazu, naku hibari.
Au milieu du champ, et libre de toute chose, l'alouette chante.
Fukutabi ni, chō no inaoru yanagi kana.
Avec chaque souffle, le papillon se déplace sur le saule.
Kiyotakiya, nami ni chirikomu aomatsuba.
La cascade claire, les aiguilles de pin vertes, tombent dans les flots.
Sur une branche morte, un corbeau s'est posé. Crépuscule d'automne.
En fait, l'art poétique de Basho, donc, se confond avec sa vie.
Alain Kerverne.
Puisque quand Basho naît, il naît en 1644, le Japon est en paix depuis environ 40 ans. Après une succession de guerres civiles, le pays recommence à vivre, l'insécurité ne règne plus, les villes commencent à se développer et les hommes et les marchandises commencent à circuler dans le Japon. Et Basho arrive à un moment, effectivement, dans les villes qui se développent, notamment Sakai, Osaka, et la toute jeune Edo, qui est la capitale politique du pays, mais qui commence seulement à se développer. Eh bien, les activités artistiques et littéraires commencent aussi à se développer. C'est un signe que la paix est revenue. Et après une enfance heureuse, donc dans la maison du maître de son père, il doit, à la suite d'un deuil, quitter son domicile et il part à Kyoto parce que déjà, il a des prédispositions pour la poésie. Voilà, il était donc très ami avec le fils du maître de maison, puisque son père était un samouraï attaché à une maison, à un clan, et son fils, le fils de ce maître de cette maison, qui était le clan Todo, son fils, qui s'appelait Yoshitada, était donc, c'était lié d'amitié avec Basho, qui était donc, lui, le fils d'un des hommes de main, on va dire, des samouraïs de la maison. Et une amitié les lie et ils se mettent tous les deux à aimer la poésie, à fréquenter les clubs de poètes et ensemble ils commencent à développer des activités autour de la poésie quand brusquement, donc autour de 20 ans, son ami, donc les maîtres, Yoshitada meurt. Et il se retrouve, alors il part, déjà il est encouragé par les premiers succès en poésie et il part où? Il part à Kyoto qui est l'ancienne capitale impériale, enfin l'empereur y habite toujours, c'est la référence sur le plan culturel encore au Japon avant que Edo et Osaka détrônent cette ville dans les siècles suivants. Et là, donc, il suit une formation pour devenir poète, à savoir sous la férule d'un maître qui s'appelle Kitamura Kijin. Il apprend la calligraphie, la philosophie, la poésie, et parallèlement, il multiplie les expériences et les cercles de poésie en ville. Et il publie, on le repère à plusieurs reprises, en 1667, en 69 et en 1671. Et sa première anthologie, qui s'appelle Le jeu du coquillage, est déjà quelque chose où on sent poindre la maturité alors qu'il a à peine 25 ans.
Le poème chinois, le poème japonais, le lenga et le haïkai relèvent tous de l'art poétique. Les trois premiers, cependant, laissent de côté certains sujets, tandis que le haïkai ne s'en interdit aucun, même si cela les évite. il retient tous les aspects plaisants du nouvel an. Que ce soit le rossignol qui chante dans les fleurs, ou bien qui lâche sa fiente dans les gâteaux sur le promenoir, il chante la grenouille qui demeure dans les eaux, aussi bien que le bruit de l'eau quand elle plonge dans le vieil étang. Et c'est ce bruit même qu'elle fait en quittant l'herbe sèche pour entrer dans l'élément liquide, qui est la résonance propre au haïkai.
Le haïkai n'est pas d'abord un genre, c'est un style.
Daniel Stru.
C'est un terme qui vient de la poétique ancienne, qui existe depuis longtemps au Japon. Et la pratique du haïkai se relie à une forme poétique très particulière qui s'est développée au Moyen-Âge au Japon, qui est le vers enchaîné. C'est-à-dire non pas un poème composé par un poète seul, comme on est habitué à voir ça en Occident, mais plutôt une poésie pratiquée collectivement en groupe. On se réunit et on enchaîne des vers selon des règles assez précises. Alors ça paraît au Moyen-Âge, mais au XVIIe siècle, avec l'unification du Japon, le développement d'une nouvelle société urbaine, d'une nouvelle culture marchande, avec l'évolution de la langue aussi et des réalités autour, donc ce vers enchaîné qui est devenu ancien devient difficile à pratiquer, et une forme nouvelle plus facile émerge, qui est le vers enchaîné comique. Et haïkai, en fait, signifie comique. Mais il est aussi une occasion de s'approprier l'ancienne culture de cour, en jouant avec elle, d'en faire quelque chose d'autre.
Ce qu'on appelle haïkai est un jeu de l'esprit qui doit contenir une pointe de raillerie. Le jeu de l'esprit consiste à prêter des sentiments aux choses insensibles et la parole à des êtres dépourvus de voix. Ai est je, kai est dégagé. Il y a d'autre part ce que l'on appelle le plaisant. Il s'agit de l'art de répondre du tac au tac, soit, en d'autres termes, du jeu de l'esprit. Dans le Kokinshu, les poèmes composés par je sont dits aikaika.
Un mot sur cette forme dont il pratique déjà, qui s'appelle donc à l'époque le haïkai, c'est-à-dire poème de ton badin, on va dire. Hein. C'est une activité de délassement que pratiquaient les bourgeois des villes. Donc ces gens se réunissaient et pratiquaient un art qui était un lointain écho d'une activité aristocratique, à savoir des séances de poésie à plusieurs qu'on appelait les renku, c'est-à-dire des vers liés. Et le premier vers, le verset d'envoi de ces longues théories de poèmes composés à plusieurs, avait toujours une grande importance, forcément. C'est lui qui présidait à l'ensemble et qui devait donner l'atmosphère générale et le ton du poème qui allait se développer ensuite. Et peu à peu, grammaticalement, ce premier verset d'envoi qu'on appelle le hoku, qui veut dire vers en développement, si vous voulez, mot à mot, eh bien, il va donc se développer grammaticalement, il va devenir indépendant. Et puis, peu à peu, il va effectivement aussi d'être indépendant sur le plan sémantique. Et puis, c'est comme ça que du hoku, il va passer au haïku. Mais le mot haïku n'est pas encore, on devrait pas dire haïku de Basho, puisque le mot haïku n'existe pas encore. Hein. Le haïku va être, ce mot va être créé par une autre personne, donc au début du XXe siècle, hein, Masao Kashiki, qui lui va relancer le haïku, qui allait mourir de sa belle mort, et puis qui le relance, mais c'est une autre histoire. Donc le mot haïku a été inventé par cet homme, mais bien plus tard.
Le haïkai est une forme de chant, uta. Le chant existe depuis l'ouverture du ciel et de la terre. Quand la déesse et le dieu furent, du ciel, descendus à Onokolojima, la déesse d'abord dit « Ah, le beau garçon que voici !» et le dieu de déclarer « Ah, la belle fille que voilà !» Ce n'était là, certes, point du chant, mais exprimer en paroles ce que le cœur ressent est bien de l'essence du chant. C'est la raison pour laquelle l'on voit là l'origine du chant. Au temps des dieux, le nombre des mesures n'était pas déterminé, mais venu l'âge des hommes, il se fixa à 31 mesures. Et comme il s'agit de la manière du pays de Wa, on le nomme Waka. Du Waka sont issus le Lenga, puis le haïkai.
Concrètement, la poésie japonaise tourne essentiellement autour d'une forme unique qui est ce qu'on appelle le waka ou encore le tanka, la terminologie est un peu compliquée, et qui est un vers de 5, 7, 5, 7, 7 syllabes. Donc, quelque chose de très bref, mais qui déjà depuis l'époque ancienne était réuni, rassemblé, on en faisait des séries, des anthologies, des recueils. Donc, la brièveté n'empêche pas le foisonnement, au contraire, elle le permet. Le vers enchaîné consistait à couper en deux ce waka classique, et considéré comme la grande forme classique de la poésie japonaise, et donc d'enchaîner des vers de 5, 7, 5 syllabes, et de 7 et 7 syllabes successivement. Donc une première personne commence avec un vers un peu plus long, 5, 7, 5, une deuxième enchaîne avec un vers plus court, 7, 7, puis on continue. Donc ça se présente sous forme de chaîne, de 100 vers de ce type-là. Alors, il faut quand même dire que dans ces séries enchaînées, tous les vers ne jouent pas le même rôle, et notamment le premier vers est très important. Donc la première séquence de 5, 7, 5 syllabes, cette séquence-là a joué un rôle particulier, puisqu'elle était en général attribuée à l'hôte d'honneur, qu'elle faisait allusion à la circonstance qui réunissait les poètes venus faire de la poésie, et qu'elle était en général adressée au maître des lieux, en une sorte de remerciement et d'hommage à celui qui offrait son espace pour la poésie. Et donc, en général, ce premier verset, ou ce premier vers, était composé à l'avance, soigneusement, faisait allusion aux circonstances et donc à la saison. C'est pour ça que dans le haïku, encore la saison est si importante. On pouvait en faire, comme on pouvait en faire en avance, on pouvait en faire sans penser à la séquence suivante. Donc déjà, ce hokku qui deviendra le très bref haïku commence à être composé d'une manière indépendante à l'époque de Basho. On le recopie par exemple, on le calligraphie sur séparément pour en faire aussi un objet décoratif pour l'afficher.
Première averse. Le singe aussi aimerait un petit manteau.
Il faut savoir que le XVIIe siècle est le début de l'imprimerie au Japon, et que dès le début, le haikai, qui est par excellence une forme orale, une forme improvisée, et qui est liée à un moment donné. Mais dès le début au XVIIe siècle, ces séries de haikai immenses sont imprimées et diffusé dans ces groupes de haïkai, puisque là encore c'est quelque chose qui est difficile de comprendre, mais on ne fait pas de la poésie d'une manière sauvage dans le Japon de l'époque. Pour faire du haïkai, il faut être attaché à une école. Ces écoles elles-mêmes se rattachent en fait à de très anciennes écoles de poésie waka et de poésie enchaînée. Donc il s'agit d'une véritable organisation avec des groupes réunis autour de maîtres reconnus qui cherchent à accroître le nombre de leurs disciples, qui en tirent d'ailleurs des revenus également, qui profitent de l'imprimerie pour diffuser les productions de leur école et pour maintenir la cohésion de leur groupe. Le haïkai, de ce point de vue-là, peut être considéré comme une véritable équivalent de sorte d'école, presque d'université, puisque en entrant dans le haïkai, on reçoit en fait une éducation classique. Il était quand même nécessaire, même pour cette forme allégée et un peu ludique, de bien connaître par cœur les grands recueils d'anthologie de l'époque classique, du 10e, 11e, 12e siècle. Il fallait connaître le dit du Genji, les grands romans classiques. Donc il y avait une véritable formation classique japonaise, chinoise beaucoup moins, mais surtout japonaise, et on peut dire que les marchands et même les guerriers du XVIIe siècle ont très largement été acculturés, formés dans le cadre de ce haïkai. Même cette philologie japonaise qui va se développer au XVIIIe siècle sur d'autres bases a été préparée par exemple les innombrables éditions commentées de classiques que publient ces maîtres de haïkai. Ils font aussi un grand travail pour diffuser, faire connaître et rendre accessible une culture qui jusqu'à présent était réservée à la petite aristocratie de cour de Kyoto et à des moines qui la fréquentaient.
Alors en 1672, il part à Edo. Et là, donc, alors, il a fait ses armes un petit peu à Kyoto. Donc, à Edo, ça sera la future Tokyo. Il essaye donc, il fréquente plusieurs cercles de haïku. Et là, nous sommes en plein bouillonnement de une tentative. Il y a plusieurs tentatives qui ont été faites par plusieurs personnes avant Basho pour essayer de faire de ce genre qui apparaît là, qui émerge lentement, qui évolue, un genre littéraire à part entière. Et c'est vrai que Basho arrivant, tout bascule, puisque Basho arrivant, il va donner par sa personnalité une profondeur, une consistance, on va dire, au haïku, au roku, on va dire, qu'il n'avait pas jusque-là.
Basho ne pouvait effectivement qu'appartenir à une école, puisque lorsqu'on commençait à pratiquer le haïkai, on devait le faire nécessairement avec d'autres, auprès d'un maître. Et donc, Basho va se rattacher à un maître. On ne connaît pas très bien d'ailleurs les débuts de la vie de Basho, et on ne sait pas exactement sûr de l'identité de son parcours au début. Pour donner une image un peu simplifiée de ce qui s'est passé au XVIIe avec le Haikai, on distingue trois étapes. La première est centrée autour de Matsunagate Toku, on appelle ça le Teimon, et la phase de constitution, c'est à peu près la moitié du XVIIe siècle. Ensuite, ce Haikai constitué autour de Matsunagate Toku commence à vieillir. Les écoles constituées surtout autour de la ville de la capitale, Kyoto, sont contestées. Et dans les années 70, se développe un Haikai nouveau à Osaka et à Edo. Et quand Basho arrive dans les années 70 à Edo, il va participer à ce mouvement de contestation des écoles de Kyoto et de renouvellement du Haikai. Simplement, ce renouvellement, qui est aussi un bouleversement des anciennes affiliations, va entraîner une sorte de développement accéléré du Haikai et une crise de cette forme qui, contestant les formes sur lesquelles elle s'appuyait, finit par déboucher sur une sorte de désordre généralisé. Et c'est dans cette crise du Haikai que Basho va émerger comme celui qui aurait su faire du Haikai une véritable forme poétique, le doter d'une esthétique et en faire, tout en gardant ce caractère léger et ludique, en faire une forme poétique sérieuse et en faire une grande poésie.
Kyolai dit: entre les autres courants et l'école de Basho, il semble que la différence soit tout d'abord dans l'usage de la réflexion. L'école de Basho énonce les choses comme elles se trouvent, pour la forme et pour le fond. Les autres courants, apparemment, les fabriquent en esprit. Même un paysan illettré, voire un enfant de moins de 10 ans, peut à l'occasion produire un bon verset, selon l'école de Basho, ce que même un expert, selon les critères d'une autre école, sera incapable de faire. Quel est donc cet arbre invisible dont les fleurs répandent ce parfum? Ce verset a un modèle. Il traduit en effet, semble-t-il, l'atmosphère du poème de Saigyo. Quel est le dieu qui en ces lieux demeure? Certes, je ne sais, mais de vénération, mes larmes ont jailli.
Matsunagate Toku est une figure de passeur. Il a assimilé tout ce qui pouvait être assimilé de la science poétique du Moyen-Âge finissant, et il a joué un rôle essentiel dans l'acculturation des nouvelles classes urbaines qui se forment au XVIIe siècle. Au moment où ce courant issu de Matsunagate Toku commence à être contesté, les nouveaux poètes se réunissent autour d'une autre figure qui est celle de Nishiyama Sōin, un maître de vers enchaînés qui exerce dans un temple d'Osaka et qui, par son intérêt pour le zen et pour la philosophie chinoise, notamment pour cette philosophie chinoise non conformiste, non confucienne, représentée par Chuang Tzu ou Lao Tzu, donc c'est une époque où on lit beaucoup l'œuvre de Chuang Tzu, considère que le haïkai est avant tout quelque chose de libre, que la liberté est la première caractéristique du haïkai, et donc il accepte des disciples venant de tous les horizons et les encourage à essayer de nouvelles choses. C'est donc d'un maître de l'ancienne école que Basho a reçu son initiation au Haikai. C'est avec Nishiyama Soin qu'il en a saisi l'esprit et qu'il a commencé à s'intéresser. D'ailleurs, comme les autres autour de lui, Basho est en fait souvent présenté comme une figure isolée, mais il est la nouvelle recherche insiste beaucoup sur le fait qu'il est extrêmement lié en fait à tout ce qui se passe à son époque, extrêmement sensible à toutes les innovations. Il commence à s'intéresser à la poésie chinoise, alors que justement le Haikai était plutôt fondé sur une culture japonaise. Donc il commence à lire les poètes chinois, il lit le Chuang-tzu et il essaye de renouveler le Haikai en lui faisant partager l'esprit de la poésie chinoise, en exprimant dans la langue du Haikai, qui est issue de l'ancienne langue poétique japonaise, mais qui a fait entrer aussi la langue de tous les jours de cette époque-là, en l'enrichissant de l'esprit de la poésie chinoise. Et c'est cette synthèse qui va donner la poésie de Basho.
Ichinaka wa mono no nioi ya natsu no tsuki. Ichinaka wa mono no nioi ya natsu no tsuki. Au-dessus de la ville, pleine d'odeurs, la lune d'été. Au-dessus de la ville, pleine d'odeurs, la lune d'été. Ça, c'est donc Bonsho qui fait ce poème d'envoi. Et Basho, lui, va faire, pour lui répondre, une composition en 14 syllabes, donc celle qui complète la première, qui va être ceci. Atsushi, Atsushito, Kado Kado no Koe. Atsushi, Atsushito, Kado Kado no Koe. C'est-à-dire, qu'il fait chaud, entend-on à chaque coin de rue. Donc on voit, si vous voulez, qu'on reste dans une espèce de distanciation par rapport à la réalité, mais quand même une réalité très prosaïque. Hein, il y a tout un jeu subtil entre la distanciation, et puis en même temps on s'amuse à reprendre ce que la foule, qui est dans cette ville bruyante, pleine d'odeurs et de couleurs, c'est la lune d'été, donc il fait très chaud, très moite, il y a cette lune au-dessus qui est toute blanche et froide, qui paraît froide, et les gens entre eux parlent, et on entend sans arrêt les gens dire qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud. Donc on est là dans, effectivement, tout à fait l'esprit de l'école de Basho.
Au creux de la main, il a fait ramper les poux à l'ombre des fleurs.
Nouant les timaki, d'une main elle relève les cheveux du front. Ce verset se présente à la manière d'un récit. Au temps où Kyorai compilait le Salumino, de chez le maître, il reçut une lettre. Il est bon que dans un recueil figure une pièce en forme de récit. Aussi vous envoyai-je ceci. Y était-il dit. Malade, une oie descend dans la froide nuit. Je dors solitaire. Hutte de pêcheurs, aux crevettes mêlées, chante le petit grillon. Au temps où l'on faisait le choix pour le Salumino, le maître avait dit « Il faudrait retenir l'un de ces versets. » Et Bonsho de proposer « L'oie malade a son intérêt, mais le petit grillon mêlé aux crevettes, voilà un verset qui, par son aisance, par sa nouveauté, est véritablement exceptionnel. » Et Kyorai d'argumenter « Le verset aux crevettes est insolite, certes. » Mais pour peu que je m'en fusse avisé, j'eusse pu en faire autant. L'oie malade, par contre, est d'un esprit élevé et d'un goût subtil, dont jamais je ne me fusse avisé, tant et si bien que je retins les deux. Par la suite, le maître dit, eussiez-vous donc admis les mêmes arguments pour les crevettes que pour l'oie malade?
Beaucoup de discussions, effectivement, de Basho et Clissy portent sur le choix des mots. Est-ce que tel mot est bien employé ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre mot? Et je crois que c'est justement lié à cette présence partagée par le maître et les disciples de Haikai, de ces codes, de cette science politique, qui fait que chaque mot évoque de très nombreuses associations d'idées qui passent par la connaissance de la poésie classique, du haïkai précédent, mais aussi de tout ce qu'un mot peut éveiller aussi pour un citadin du XVIIe siècle. En fait, sur la technique du haïkai, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une des caractéristiques du technique du haïkai qui faisait sa distinction avec le vers enchaîné classique, c'est que dans le premier haïkai, on définissait ce genre comme vers enchaîné avec présence de termes vulgaires. C'est-à-dire qu'il était obligatoire dans un vers de haïkai qu'un terme non poétique, vulgaire, de la langue de tous les jours, ou même un terme chinois, puisque les termes chinois sont interdits dans la poésie classique japonaise, alors que la langue japonaise contient une grande proportion de vocabulaire d'origine chinoise. Donc, un mot devait être là, on appelle le haigon, le mot de haikai, qui devait être là pour que le vers ne soit vraiment un vers de haikai, non pas un vers de la poésie enchaînée classique. Dans la poésie de Basho, il est très souvent vain de chercher un mot de haïkai précis, un haïgon précis, justement dans cette œuvre de création d'une nouvelle langue poétique, qui finalement ce qu'a réussi Basho, c'est qu'il est d'une certaine façon le seul à avoir réussi parmi les poètes de haïkai du XVIIe siècle, en tout cas à la perfection, le haïkai est la caractéristique du vers tout entier. Et donc les vers de Basho peuvent parfois ressembler extérieurement à des vers de poésie enchaînée classique. C'est là que la lecture attentive, l'interprétation, donc la culture en fait de celui qui lit, qui en principe, le dessinateur du haïkai, c'est un poète de haïkai, c'est un disciple ou un compagnon de haïkai. Donc c'est la culture de celui qui entend qui permet de deviner l'intention. C'est aussi ce qui permet en principe d'enchaîner.
Fune ni tsa no yu no ura aware nari. Cérémonie du thé à bord en vue d'une côte magnifique. Cérémonie du thé à bord en vue d'une côte magnifique. Et l'autre comparse répond: Tsukushimade hito no musume o meshi tsurete. Tsukushimade hito no musume o meshi tsurete. Jusqu'à Tsukushi, la jeune fille capturée doit être emmenée. Jusqu'à Tsukushi, la jeune fille capturée doit être emmenée. Et là, Basho est enthousiaste. Alors pour nous, évidemment, il y a plein de choses qui nous échappent. Mais voilà ce que dit Basho. Le dernier vers est parfait sur le fond et sur la forme, et aussi par sa technique de liaison avec le précédent verset. Un homme au goût raffiné a kidnappé une jeune fille et lui fait procéder à une cérémonie du thé sur le bateau qui les emmène. Le verset est original par rapport au poème d'amour ordinaire, et il a beaucoup de qualités. D'anciens récits comme celui de Matsuura, enlevant une princesse, ou encore celui de Dame Askai, kidnappée par un jeune homme de noble condition, sont des images sous-jacentes dans cette vision d'un personnage aristocratique retournant en bateau jusqu'à Tsukushi avec une jeune fille qu'il a enlevée. Les réminiscences sont ici sans fin. Et le fait qu'il y ait des réminiscences, c'est pour lui positif. Vous voyez, on est loin, effectivement, de la politique occidentale, où, effectivement, on recherche l'originalité à tout prix, etc. Au contraire, non. Quand on met ses pieds dans les pas des anciens, c'est positif, c'est consistant.
Je le compare, ce qui est un peu paradoxal, à tout ce qui est de l'ordre d'un chorus en jazz, chez un musicien qui va utiliser un thème complètement rebattu, et qui va faire dans son chorus une citation du thème en question, qui ne sera reconnaissable effectivement que par les gens cultivés, enfin qui ont une culture en jazz ou qui ont une culture en haïku.
Dominique Palmé.
Et la poésie japonaise classique, notamment la forme d'où est né le haïku, c'est-à-dire ce qu'on appelle le waka ou le tanka, est une forme extrêmement codifiée où la citation en tant que telle n'est jamais considérée comme un plagiat mais comme un hommage. Hein, on appelle ça le honkadori, littéralement prendre dans le poème d'origine. Donc on prend un segment, on va l'insérer dans son propre poème, et tout le piquant, si je puis dire, du haïku, du tanka, pour quelqu'un de cultivé, du haut Moyen-Âge ou ensuite de l'époque 16e, 17e siècle, c'était d'être capable de reconnaître immédiatement comment la citation était faite et comment elle s'articulait avec quelque chose qui était nouveau. C'est à la fois un hommage, mais c'est pas un plagiat. Donc on peut apprécier une fois qu'il est traduit, le haïku dans sa fulgurance, dans des images extrêmement concises et souvent très déconcertantes, mais on ne peut pas mesurer toutes les couches successives, les strates qu'il peut y avoir derrière ça. Et je dirais, le haïku, c'est un peu la partie visible d'un iceberg qui est la littérature japonaise classique et auquel, dans la forme classique, hein, maintenant en littérature contemporaine c'est différent, mais il a été fait recours tout le temps.
Partant pour un voyage de 1000 lieues, sans m'embarrasser de provisions de route, sous la lune de la troisième veille, dans l'inquestionnable suis entré, pouvait dire cet ancien. Sur sa canne m'appuyant, en l'air Jokio, l'an de l'aîné de l'arbre et du rat, à la huitième lune d'automne, lorsque je quittais mon logis délabré près la rivière, il soufflait un vent frisquet.
Nozarashio, kokoro ni kaze no shimu mikana.
Dusse blanchir mes os, jusque en mon cœur le vent pénètre mon corps. Après 10 automnes, le nom de patrie désigne Edo désormais. Le jour que je franchis la barrière, la pluie tombait et les montagnes disparaissaient toutes dans les nuages. Brouillard et bruine dissimulent le Fuji, charme de ce jour.
Kirishigure, Fuji o minu hizo omoshiroki. Michinobe no mukuge wa uma ni kuware keri.
Chose vue. Du bord du chemin, l'hibiscus par le cheval s'est laissé brouter.
Il décide en 1684 de partir. De partir sur les routes, et je pense qu'il est influencé par cette figure emblématique du poète tel que l'imaginent les Japonais de tous les temps, à savoir quelqu'un qui, c'est un bon résumé de la sensibilité japonaise sur ce terrain, c'est la poésie, le voyage et l'ascèse spirituelle ne sont qu'une seule et même chose. Et Basho va se lancer sur la route, il va avoir en tête bien sûr la figure emblématique de quelqu'un d'autre qui est le grand poète Saigyo, hein, du 12e siècle, mais lui-même, eh bien, il va effectivement se jeter sur la route, et on peut observer que au Japon, les poètes que les Japonais admirent, qui sont chers à leur cœur, sont souvent des gens qui ressentent, qui retrouvent, qui se confondent avec cette figure emblématique, hein, de la personne sans attache, errante, et qui dont la démarche poétique se confond avec une démarche spirituelle, une espèce de quête spirituelle.
À la ceinture, je ne porte le fer, et le bissac suspendu au col, à la main, je tiens le chapelet de 18 grains. Je ressemble à un moine et suis couvert des poussières du siècle. Je ressemble à un laïc et n'ai point de cheveux. Je ne suis moine, certes, mais qui ne porte le toupet, l'on tient pour sectataire du Bouddha et l'on m'interdit de me présenter devant les dieux.
À l'époque, ces gens vivaient sous une dictature militaire. Avec, effectivement, malgré tout, même si les gens pouvaient se déplacer, lorsque vous voyagiez avec un habit de moine, vous aviez un statut. Et si vous n'aviez pas d'habit de moine, on pouvait vous suspecter d'être un vagabond. Donc, si vous voulez, il était plus facile de se déplacer en faisant croire qu'on faisait un pèlerinage religieux. Et donc, sous l'habit de moine, effectivement, c'était plus facile de voyager. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a affublé, on a donné à sa personnalité une connotation un peu trop religieuse, à mon avis. Mais c'est simplement, à l'époque, voyager avec un habit de moine, c'était plus facile.
Au début de la lune longue, revenue au pays natal, je trouve les carex du jardin de l'aile nord desséchés par le gel, si bien qu'à présent, il ne reste plus même la trace de ma mère. Tout est transformé. Les tempes de mon frère ont blanchi. Les rides barrent ses sourcils. Mais la vie du moins nous reste, constatons-nous. Et les paroles lui faillant, mon frère aîné dénoue les cordons d'une bourse à amulette. « Vois, me dit-il, les cheveux blancs de notre mère. ainsi que du fils d'Ulashima lorsqu'il ouvrit le coffret précieux, tes sourcils à toi aussi grisonnent. Et pendant un moment, nous versons des larmes. Dans ma main fondra, car chaudes sont mes larmes, le givre d'automne.
Bachot, qui est mort à 50 ans, a commencé à voyager, et quand je dis voyage, c'est plutôt de pèlerinage dont il est question, de pèlerinage poétique, où on se rend sur des lieux antiques célèbres, et aussi dans les lieux où ont vécu des poètes anciens.
Hervé Collet.
Donc c'est seulement à 40 ans, soit 10 ans avant sa mort, qu'il a commencé à faire ce genre de pèlerinage à pied. Et il est parti tout d'abord vers Kyoto. Il allait souvent dans la région de Kyoto, puisqu'en fait c'est sa région natale. Donc il empruntait le Tokaido, qui est la route de la mer de l'Est, qui va de Tokyo à Kyoto. Donc il y a deux haïkus au début de ses voyages, qui montrent bien ce que représente ce genre de pèlerinage pour lui. Le premier est « Résolu à m'exposer aux éléments, le vent me transperce le corps ». Et au bout de la route, il écrit « Encore vivant, au bout du voyage, crépuscule d'automne ». Il sait que l'expérience va être physiquement très éprouvante. Bon, il va voyager, n'exagérons pas non plus, juste 9 mois, à pied, mais enfin, évidemment, ballotté par les événements comme un fétu de paille, quoi. Donc la pluie, le vent, les pèlerins poétiques de l'époque voyageaient avec un manteau de paille et un grand chapeau de bambou qui pouvait les abriter de la pluie ou du soleil. Mais c'est vraiment le fétu de paille qui part sur les routes, mais jamais seul en fait. On a l'impression que Bachot était seul dans ses voyages, mais il était toujours accompagné d'un disciple dans tout ce qu'il a entrepris.
Sur la route qui mène à Otsu, en suivant un sentier de montagne.
Par le montueux sentier, ne sait quel charme répand la violette.
Paysage lacustre.
De Kalasaki, le pin plus que les fleurs, de brume voilée.
Pour la pause de midi, je m'assois dans une auberge de voyageurs.
Bouquet d'azalée, à son ombre une femme émiette la morue séchée.
Composée en route.
Au champ de colza, ont l'air d'admirer les fleurs, moineaux qui volettent.
À Minakuchi, je retrouve, après 20 ans, un vieil ami.
D'être en vie tous deux, la joie avec nous partage le cerisier. À la fin de la lune des Deuzi, je retrouve ma chaumière et je m'y repose des fatigues du voyage.
De ma robe d'été, jamais je n'en finirai d'enlever les poux.
Quand il rentre à Edo en 1685, il a fait un immense périple sur la côte pacifique à partir d'Edo. Il s'arrêtera à Ise, le grand sanctuaire Shinto, à Ueno, où il retrouve sa famille. Et donc, chaque fois, il s'arrête parce qu'il y a des clubs de poésie, de haïkai, qui sont là. Et il va donc participer à des joutes poétiques, où il va très souvent être arbitre et il va exceller, bien sûr, dans cette technique-là.
Okiyo, okiyo, waga tomo ni sen, neru kocho.
Réveille-toi, réveille-toi, et deviens mon compagnon, papillon qui dort.
Les amis se retrouvent, et alors il y a à manger, à boire, et puis on lance un thème. Alors les gens sont tous assis autour d'une table, bon, ils prennent le temps de composer. Une fois que c'est composé, donc, on met l'ensemble anonymement au milieu de la table. Et puis, alors, ça tourne. Chacun lit tout ce qui a été écrit et recopie ce qui semble être le plus intéressant parmi les poèmes. Une fois que tout le tour, ils peuvent être 3 comme 10, et une fois que les poèmes ont été vus par tout le monde et que chacun a retenu ce qui était le plus intéressant, on procède à la lecture. À la lecture, donc, à haute voix. Tout ça a des termes techniques. Il y a des termes techniques très précis en japonais pour tous ces moments-là de la séance de haïku. Ensuite, donc, on les lit à haute voix, et puis, alors, on note sur un bout de papier, donc, eh bien, ceux qui... tout ça, c'est extrêmement formalisé, évidemment. On note ceux qui ont retenu le nombre de voix qu'a retenu chacun des poèmes, si vous voulez. Et ensuite, donc, on les passe au crible, le maître, donc, les relit, et puis donne ses commentaires. Celui-là est intéressant parce que, etc. Et généralement, les plus distingués, l'auteur se dévoile à ce moment-là. Mais jusque-là, c'est anonyme, si vous voulez. Hein. Mais ce passage entre donc la production poétique ensemble sur un thème donné, chacun écrit. Ensuite, chacun devient juge. Il passe de d'auteur à juge ou à arbitre, on va dire, en retenant, en jugeant les compositions des autres, tout ça anonymement. Et la troisième partie, la plus intéressante pour eux, en tout cas, c'est aussi d'entendre les commentaires qui sont faits par le moniteur, on va dire le maître. Et si vous voulez, ces trois parties sont très denses. Et la dernière partie est la plus riche, parce que si vous voulez, là, c'est là que le maître, et Bachot en l'occurrence, donc donne son avis sur tel et tel, et le disciple peut dire, mais par exemple, je vais donner un exemple qui est assez connu. Voilà, c'était Kyōrai, qui était un des élèves de Bachot, et qui avait composé le poème suivant. Iwahanaya, koko ni mo hitori, tsuki no kyaku. Iwahanaya, koko ni mo hitori, tsuki no kyaku. Donc la traduction pourrait être ceci, parce que le contexte est très très important, et on n'écrit en japonais, de façon en japonais même, pas en poésie, mais en japonais normalement, on n'écrit que ce qui n'est pas clair dans le contexte. Voilà la traduction de ce poème, à la pointe du rocher, ici encore un autre, invité de la lune. À la pointe du rocher, ici encore un autre, invité de la lune. Alors, voilà, et un ami de Kyōrai lui dit, c'est sympa ce que tu as écrit, mais ça serait mieux de remplacer le mot l'invité de la lune, encore un autre invité de la lune, le mot invité, si tu le remplaces par le mot singe. Alors, il faut dire que le thème du singe était très très courant, très à la mode dans les peintures de paysages à l'époque. Il y avait beaucoup de ce thème du singe était très très présent. Voilà. Alors, Kyōrai était pas d'accord, il dit, mais non, je trouve que ça va pas avec ce que j'ai voulu mettre, etc. Et on demande l'avis de Bachot. Et Bachot lui dit, mais explique-moi ce que tu as voulu écrire. Et alors il lui dit, voilà, j'ai été attiré par la beauté de la lune, et je suis sorti de chez moi, et là j'ai aperçu sur un rocher assis un autre bonhomme, une autre personne amoureuse de la lune, et qui était sur son rocher. Et Bachot lui dit, mais ton poème ne pourra être intéressant que si l'invité de la lune, c'est toi. Autrement dit, mine de rien, bon, on pourrait être surpris par la réplique de Bachot, mais en fait, Bachot, sur le plan spatial du poème, renverse complètement les choses. Puisque, si vous voulez, on imagine que Kyōrai sort de chez lui, et il voit donc quelqu'un sur un rocher. Donc, la vision est horizontale. Et brusquement, Bachot pointe les choses essentielles, c'est-à-dire l'homme sous la lune. Et brusquement, les deux hommes se confondent en une seule être humain et qui est sous la lune. Autrement dit, voilà ce que Bachot était capable de faire comme commentaire. Ah, évidemment, c'est avec un maître comme ça, on pouvait devenir génial.
Le maître dit, s'exercer est l'affaire de chaque instant. Une fois en place, ne laissez pas l'espace d'un cheveu entre le plateau à écrire et vous. Exprimez immédiatement ce qui vous vient à l'esprit et arrivez à ce point, ne vous laissez troubler par rien d'autre. Venu l'heure de ranger le plateau, tenez-le pour un griffonnage sans valeur. C'est là un précepte auquel il attachait la plus grande importance. Voici d'autres paroles encore du maître à propos de la composition. La lumière qui se dégage des choses, il faut la fixer dans les mots avant qu'elle ne soit éteinte dans l'esprit.
Il Il va donc composer un kassen. Alors un kassen, c'est donc une composition, un renku, une composition de versets liés, mais en 36 poèmes, si vous voulez, donc combinés. Et il est familier de ce type de composition avec ses amis. Deux règles. La première, pas de vers trop original, qui briserait l'harmonie d'ensemble recherchée. Voilà, là, effectivement, on est au Japon. Hein, le groupe prime tout. Deuxième règle, pas de conformisme. Vous voyez, on est entre les deux. Pas de conformisme, la dynamique collective risquant de s'enliser. Voilà, ce sont les deux écueils hein, dans lesquels il faut gerber. Le poème d'envoi étant fait, alors là, il faut que ça soit la tonalité des six compositions suivantes doit être calme, pondérée, mais en même temps attirer déjà l'attention du lecteur. Par exemple, Kyolai dit ceci, dire qu'un rossignol chante sur un prunier, c'est nul, enfin c'est banal. Mais dire qu'il chante la tête en bas, voilà un bon verset initial. C'est dans les traductions de Bachot. C'est pas mal. C'est vrai. Hein, c'est intéressant parce que voilà, ça donne bien l'esprit dans lequel on commence. Les 24 compositions suivantes. Alors là, on peut y aller. Alors là, si vous voulez, on y va. On se déchaîne. C'est le cas de le dire. Pour un poème en chaîne, le talent de chacun peut se libérer pour étonner, charmer, intriguer par son audace ou par des poèmes attendus, inattendus. Et les six derniers, dont prépare la chute de la série, le rythme s'apaise, est moins vif, et les images moins colorées. Voilà. En gros, si vous voulez, voilà comment se passe sur le plan du contenu, du rythme, un kassen. Les thèmes. Alors là, c'est très très précis, on ne rigole plus. Des règles donc hiérarchisent les thèmes. Par exemple, les cerisiers en fleurs ne s'épanouissent qu'au 17e ou 35e poème dans un kassen. La lune n'apparaît qu'au 5e, 13e et 29e partie du renku. La luciole est évoquée à la 4e, de la 4e à la 5e lune jusqu'à l'automne. Et la cigale à la 6e lune, non, ça correspond à juillet, au moment des fortes chaleurs jusqu'à l'automne. Et l'ondée du soir ne tombe pas à la tombée de la nuit, pourtant ça pourrait être ça, mais généralement l'après-midi. En fait, il y a un balisage stéréotypé du cours des saisons dans ce genre de poésie. Un petit exemple, peut-être l'hiver 1684, à Nagoya. Basho est avec 5 participants. Alors, entre parenthèses, leur statut social est intéressant. Il y a un médecin, un négociant en riz, un marchand de bois, un détaillant en tissu. Vous voyez, on n'est plus dans l'aristocratie, même militaire, oui, même pas. On est dans les chonin, c'est-à-dire les gens des villes, quoi, les bourgeois. Et le roku du départ, là, est de Tokoku, donc le négociant en riz. Voilà ce qu'il dit. Tsutsumi kanete, tsuki tori otosu, shigure kana. Tsutsumi kanete, tsuki tori otosu. Shigure kana. Nuages s'accumulant, la lune s'éteint, averse d'hiver. Nuages s'accumulant, la lune s'éteint, averse d'hiver. Alors, le second verset qui va enchaîner tout de suite, qu'on appelle en japonais le wakiku, donc il y a un terme technique pour le deuxième verset. Alors, il est dépendant du premier, bien sûr, au niveau du sens, hein, et il doit le compléter pour former avec un ensemble avec l'autre, donc de 5 vers. Alors, deuxième personne dit ceci. Kori fumiyuku. Mizuno inazuma. Kori fumiyuku. Mizuno inazuma. On marche sur la glace des éclairs sous l'eau. On marche sur la glace des éclairs sous l'eau. Là, on voit donc comment ça part bien, hein, on voit bien comment démarre ce renku, et y a bien sûr l'habileté qui naît de l'image du paysage inversé, hein, et on retrouve, alors que le ciel s'efface et se dissout, il renaît sous les eaux, sous la forme d'éclairs.
Le haïka, effectivement,
Daniel Stru.
Oblige à passer d'une réalité à une autre, c'est-à-dire que deux vers qui se suivent forment une unité de sens, mais trois vers qui se suivent ne doivent absolument pas former une unité de sens. C'est une faute majeure dans le haïkai que de constituer des poèmes des unités de sens supérieures à trois vers. Donc il faut sans cesse à la fois enchaîner et s'éloigner. Et évidemment, c'est aussi une vision de la réalité, du temps, de la manière dont les choses sont conçues, le monde est conçu. Et justement, Basho sans doute est le poète qui tire le plus grand parti, le meilleur parti de cette esthétique du haïkai. La poésie est donc pour lui un moyen d'entrer en résonance, entrer en harmonie avec l'univers conçu comme en perpétuel changement. Le haïka est caractérisé par le changement, changement constant, perpétuel changement. Il y a une sorte de paradoxe ici. Le caractère constant du monde, c'est qu'il ne cesse de changer, et le haïkai lui-même ne cesse de changer. Dans la marche de toute série de haïkai, qui est un flux perpétuel, mais aussi dans son évolution historique, puisque le haïkai doit se renouveler.
En ce milieu de la lune des deux tsi, le ciel encore garde un restant de brume, et la lune incertaine de la brève nuit possède un charme tout particulier, tandis que le jeune feuillage revêt les monts de teintes sombres. Aux premières lueurs de l'aube, quand le coucou va chanter, du côté de la mer, l'horizon blanchoit. Du côté des hautes terres, les vagues des épis de blé rougeoient, et l'on aperçoit par endroits les taches que font les fleurs de pavot près des maisons de pêcheurs. Des gens de la mer, les visages se détachent sur les fleurs de pavot.
En 1687, il fait un nouveau voyage, un long voyage. Il en fait un d'abord à Kashima pour aller voir la lune avec l'un de ses disciples. Et puis bon, c'est raté parce qu'il y a plein de pluie. Et il en tire quand même un magnifique petit relation de voyage qui s'appelle Une visite au sanctuaire de Kashima. Et il, notamment, alors là c'est une note très personnelle, puisque deux mois plus tard, il repart donc sur les routes, il retourne dans son village natal. Et là, il compose un poème qui est très connu, qui est celui-ci. Samazama no goto, omoidasu, sakura kana. Samazama no goto. Omoidasu sakura kana. Tant et tant de souvenirs au long des cerisiers. Tant et tant de souvenirs au long des cerisiers. Donc, dans ce voyage, donc, il retourne dans sa famille. Donc, il va partir, alors, il va se retrouver à Nara, à Osaka. Il va partir sur la mer intérieure. Donc, il fait un grand voyage et il retrouve, donc, son ermitage. Donc, il est resté sur les routes pratiquement un an. Et c'est le plus réussi de ses voyages où il s'arrête partout. Sa création est stimulée par tous les contacts qu'il a avec d'autres poètes parce que il a le souci aussi de se perfectionner en se confrontant aux autres. C'est très important, ça. Ses disciples, sans arrêt, le sollicitent, mais lui-même aussi, il dit, il montre ce qu'il fait aux autres. Il y a une espèce d'émulation mutuelle. C'est très très important à souligner dans sa vie, dans son comportement. Alors, il écrit donc le carnet de la hotte. Et dans ce carnet de la hotte, donc voilà ce qu'il dit. C'est une étape importante dans son art poétique. Alors, c'est la traduction de René Sterre. Que ce soit le waka chez Saigyo, que ce soit le renga chez Sōgi, la peinture chez Sechsu ou l'art du thé chez Rikyu, un même principe régit leur voix. En matière d'art, il convient de suivre la nature créatrice et de faire des quatre saisons ses compagnes. Voilà. Donc, il y a cette référence constante dans une activité artistique à la nature, qui est là, qui n'est pas seulement le propre de Basho, mais qui est le propre de toute activité artistique au Japon, quelle que soit l'époque. Ça, c'est une chose importante, mais que lui, donc, exprime de façon, en quelques mots, très simple, puisque lui-même, donc, effectivement, la nature va être non seulement son inspiratrice, mais va être aussi le but d'une espèce de fusion extatique qui va lui permettre, en fait, d'avancer dans son art et dans sa vie.
En matière d'art, il convient de suivre la nature créatrice et de faire des quatre saisons ses compagnes. De ce que nous voyons, il n'est rien qui ne soit fleur. De ce que nous ressentons, rien qui ne soit lune. Qui dans les formes ne voit la fleur est pareil au barbare. Qui en son cœur ne ressent la fleur s'apparente aux bêtes brutes. Sors de la barbarie, écarte-toi de la bestialité. Suis la nature et retourne à la nature, est-il dit. Au début de la lune sans Dieu, sous un ciel aux dessins indécis, je me sentais incertain de ma route à venir autant que feuille au vent. Voyageur sera, mon nom je le souhaite, premières averses, et camélia des monts vous donneront abri. Un habitant d'Iwaki, du nom de Chotalo, avait composé ce second verset, alors que chez Kikaku, l'on m'offrait un banquet pour prendre congé. Mes vieux amis, mes intimes et de moins intimes, mes disciples, les uns me dédiant poèmes ou écrits, les autres m'offrant le prix des sandales, me témoignèrent leur amitié. Réunir les provisions de route pour 3 mois ne me donnait guère de peine. robes de papier ou vêtements fourrés, aussi bien que capuchons ou socs, affluaient, offerts de bon cœur, si bien que je n'avais à craindre les froides rigueurs du givre et de la neige. Tel me promenait en barque ou me régalait en sa maison de campagne. Tel autre, apportant saké et condiments, venait en ma chaumière me souhaiter bonne route. Et chacun manifestait tant de regrets à me voir partir, qu'à tout ce bruit, l'on eût dit du départ de quelque grand personnage.
Est-ce qu'à l'époque, beaucoup de poètes pouvaient vivre de la poésie? Parce que quand on voit la vie de Bachot, à un moment, dans les années 80, il décide de faire du haïkai sa vie. Et en fait, il était aidé par ses disciples, qui l'aidaient financièrement. Est-ce que c'était courant à l'époque?
À l'époque des Do, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a en ville, et nous avons gardé à cette époque-là des répertoires de différents commerçants de la ville de Kyoto, de la ville de Osaka. Il y a des maîtres de no, des maîtres de tambour, des maîtres de flûte. Il y a aussi des maîtres de poésie qui on peut aller en payant apprendre la poésie classique. Il y a également évidemment des maîtres de haïkai, et quand ils ont du succès, ils peuvent. Matsunagate Toko était devenu très prospère grâce au grand nombre de disciples qui n'étaient pas d'ailleurs seulement des disciples de haïkai, puisqu'il était aussi maître de waka et de beaucoup d'autres choses. Alors Basho est quand même un cas particulier, parce que même si évidemment il a vécu de son art, c'est un poète de haïkai professionnel, il refuse cette condition, il refuse de faire de son art une marchandise. Et ces voyages qu'il accomplit sont justement ce symbole du bananier qui donne son nom, puisque Basho signifie bananier, qui est un symbole d'impermanence, d'inconstance, puisque le bananier a du mal à passer l'hiver au Japon, que ses feuilles se présentent souvent sous un état tout à fait lamentable dès que justement le vent d'automne commence à souffler. Donc ces voyages sont faits pour marquer cette rupture avec la condition de maître de haïkai payé. Un des moyens d'avoir de l'argent, c'était de corriger des séries envoyées par des disciples. Et là, évidemment, tous les compromis étaient possibles. Et donc, Basho a fait de sa propre personne un personnage et une sorte d'œuvre poétique en elle-même.
Basho no wakishite, tarai ni ame o kikuyo kana. Le Basho dans la tempête et la pluie dans mon baquet toute la nuit. Kame o ruru, yoru no kori no nezame kana.
Nuit glaciale, la cruche qui éclate me réveille.
Désolation hivernale. Dans le monde monochrome, le bruit du vent.
Furui kea, kawazu tobikomu mizu no oto.
Ah, le vieil étang. Une grenouille y plonge, le bruit de l'eau.
Furui kea, kawazu tobikomu mizu no oto. Voilà.
Dominique Palmé.
Alors, furui kea, le kireji, la césure, c'est le ya, qui est considéré comme, en fait, c'est intraduisible puisque c'est un mot complètement vide de sens. C'est un mot de ponctuation. Hein. C'est quelque chose que je serais tentée de dire, de par mon expérience de traductrice, de toute la littérature japonaise, qu'elle soit en poésie ou en prose. C'est une littérature qui, dans la tradition, est extrêmement liée à la transmission orale. Donc, ce qui est très important, c'est le rythme, c'est la mélodie. En plus, le japonais est une langue qui est très pauvre sur le plan syllabique, ce qui pourrait être un désavantage et qui devient un merveilleux avantage, parce que on peut jouer des homophonies, on peut jouer des doubles, voire des triples ou des quadruples sens, vous voyez. Donc, il faut l'entendre par l'oreille. Alors, le ya serait l'équivalent, donc, je dirais, d'une ponctuation sonore dans une partition musicale, ou en tout cas d'une ponctuation graphique qui, selon les cas, alors, Etiamble écrit des pages et des pages pour démontrer que dans le Furuikeya, ya ne peut pas être traduit entre guillemets par un point d'exclamation, ce qui lui semble un contresens, et ça on pourrait gloser longtemps là-dessus, mais ça peut être point d'exclamation, point de suspension, et ça donne souvent une tonalité émotionnelle. Donc voilà, le Kireji c'est Furuikeya. Ensuite le Kigo c'est Kawazu, Dans la façon dont je perçois ce haïku, il y a une opposition voulue, enfin voulue, peut-être pas consciemment voulue de la part de Bassos, et c'est une intuition. Comme le kigo, donc le mot de saison, c'est la grenouille, et que ce mot de saison évoque le printemps, et vraiment le tout début du printemps, quand il y a une renaissance, une explosion de la nature, et dans un pays comme le Japon, qui dans certains endroits est un pays quasi tropical, il y a une luxuriance de végétation au moment du début du printemps qui on n'a pas idée ici. Enfin moi j'ai vu même dans les rues de Tokyo des buissons entiers d'azalées, c'est impressionnant. Donc il y a beaucoup plus que chez nous, je pense, la sensation de cette renaissance, et la grenouille donc incarne cette renaissance. Et pour moi Furuike, ça me fait penser presque visuellement à ce qu'on appelle le bokuga, c'est-à-dire les peintures à l'encre de Chine, ce sont les lavis, hein, dont on voit beaucoup, enfin dans la tradition chinoise, mais qui existent aussi en japonais. Et pour moi, cette atmosphère de Furuike, le vieil étang, c'est complètement opposé à l'image de cette grenouille qui bondit et de cette végétation absolument explosive. C'est au contraire un étang qui est un étang d'eau dormante. Et pour moi, c'est complètement lié. Je ne sais pas si ça existe en tant que kigo hein, dans le haïku, ce Furuike, mais pour moi c'est complètement lié au début de l'hiver, avec quelque chose de figé, de presque glacé. Et donc ce contraste est très très beau. Voilà, donc le début est très simple. C'est furu, c'est un adjectif bon qui est furui maintenant, donc vieux, ike, étant. Il y a le kireji. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ce qui donne toute son ambiguïté à l'interprétation d'un texte japonais, surtout de poésie, et ensuite toute sa difficulté à la traduction, c'est que le japonais est une langue où il n'y a pas grammaticalement d'article, il n'y a pas les mêmes marques que chez nous du singulier et du pluriel, il n'y a pas de marque distinctive du féminin et du masculin, et donc si on s'en tient véritablement à ce que dit Basso, c'est vieil étang. Déjà, rien que sur ces cinq syllabes, il y a quelque chose qui me paraît illustrer toute la difficulté, la richesse à laquelle on est confronté quand on est traducteur de poésie japonaise. C'est-à-dire que, en fait, vous avez le choix de dire « vieil étang ». Dans le pire des cas, si je puis dire, on peut imaginer qu'il y a plusieurs vieux étangs. On peut imaginer que c'est un vieil étang. Quel vieil étang? On ne sait pas où il est. Ça peut être le vieil étang, comme métaphore de tous les étangs, voyez-vous. Donc, ça donne à la fois une difficulté, parce que choisir? Puisqu'on sait que à partir du moment où on aura fait un choix, ça va restreindre la multiplicité des interprétations possibles. Et en même temps, ça permet quelquefois de faire chanter, je dirais, le texte en lui imprimant en français un rythme qui ne sera pas le même suivant qu'on dit un vieil étang, le vieil étang ou vieil étang. Moi, je le vois plutôt aussi sur un plan musical. La poésie japonaise, la poésie en règle générale, c'est une question véritablement de partition de musique.
Sur l'étang mort, un bruit de grenouille qui plonge.
Une vieille mare, et quand une grenouille plonge, le bruit que fait l'eau.
Furuike ya, kawazu tobikomu, mizu no oto.
Kawazu tobikomu. Kawazu, c'est la grenouille. Mais c'est un terme ancien et c'est un terme dialectal. C'est-à-dire que maintenant, peut-être qu'on continue à l'utiliser dans certaines régions du Japon, mais quelqu'un qui habite dans une ville, un japonais, ne sait pas ce que c'est que kawazu. Dans le japonais moderne et même dans le japonais ancien, quand c'était pas littéraire ou dialectal, c'est kaeru, la grenouille. Ensuite, tobikomu, tobu, ça veut dire sauter, et komu, pénétrer. Donc c'est ça qui est traduit généralement par la grenouille plonge, la grenouille saute. Alors moi j'ai vu une traduction qui me fait beaucoup rire, qui est la grenouille s'élance. On a l'impression qu'elle part pour un ski nautique là. Il y a deux points qui me semblent intéressants, c'est que aussi pour donner une notion de qu'est-ce que c'est que cette langue japonaise, ça semble très mystérieux. En fait, c'est très mystérieux et c'est assez difficile parce que ça sort de nos catégories mentales d'occidentaux en ce qui concerne une structure linguistique, mais sur le principe c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que le japonais, c'est ce qu'on appelle une langue agglutinante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une langue que je comparais, une phrase en japonais, c'est comme un jeu de domino. C'est-à-dire que vous avez un mot qui donne le contenu, ce qu'on appelle une enclitique, donc une petite particule qui va se mettre à la fin du mot, qui va donner la fonction. C'est absolument la même chose qu'en latin, tout ce qui est déclinaison. Et puis ensuite, donc ça fait un petit domino, hein, donc mot plus enclitique. Et puis ensuite, vous collez un deuxième domino qui va être, par exemple, encore mot plus enclitique. Et puis à la fin de la phrase, un troisième domino qui est systématiquement le verbe. C'est une langue où toutes les phrases se terminent avec un verbe, comme la structure de l'allemand. Mais ça peut aller beaucoup plus loin en japonais. Et c'est une langue dans laquelle il n'y a absolument aucun mot de liaison. Je veux dire par là que vous n'avez pas la notion de pronom relatif et que c'est simplement la position du domino plus la petite enclitique qui lui donne la fonction qui vont déterminer le sens véritable de la phrase japonaise. Chose très intéressante qui est due justement à la concision de la forme, c'est que si on redisait ça en japonais, je dirais, vraiment strictement grammatical correct, et dans la langue contemporaine on dirait kaeru et non pas kawazu, et comme il s'agit du sujet de la phrase, on mettrait l'enclitique ga qui indique la marque du sujet, kaeru ga tobikomu. Donc là l'enclitique est chantée tout simplement parce que, étant donné la brièveté de la phrase, le sujet c'est une grenouille, elle saute, enfin l'idée du saut de la grenouille, on peut pas imaginer que le sujet soit un autre personnage que la grenouille. Donc voilà. Alors après, il y a deux possibilités d'interprétation hein, pour ce poème, pour les deux dernières mesures. On peut les considérer comme isolées. Kawazu tobikomu, une grenouille saute. Et puis ensuite, mizu no oto, bruit de l'eau, bruit d'eau, littéralement, puisque là aussi, il n'y a pas de marque d'article. Ou bien on peut l'interpréter comme bruit de l'eau où saute une grenouille, c'est-à-dire que la deuxième mesure est en position relative déterminante. Ça peut être, je dirais, soit une vision simultanée, soit une vision consécutive, c'est-à-dire une grenouille saute, pof, conséquence logique, bruit de l'eau. Ou bien, bruit de l'eau où une grenouille saute, pof, elle a plongé, à ce moment-là on entend le bruit de l'eau. Mais de mon point de vue, ça ne change strictement rien, à la résonance en tout cas. Donc là aussi, c'est extrêmement simple hein, sur le plan de la structure. Et ensuite, ça se termine par une mesure qui est complètement nominale. Mizu, c'est l'eau. No, c'est l'enclitique qui permet de relier, c'est l'équivalent de notre de, de, qui permet de relier deux mots, hein, dont l'un va définir l'autre. Et puis, oto, c'est le bruit, le son, la sonorité. Et souvent, ça se termine, les haïkus, comme ça, sur une mesure qui est nominale. Et après, c'est tout l'intérêt du haïku, c'est-à-dire que le poème, enfin celui qui est entendu par l'oreille est terminé, mais en fait ça ouvre sur d'autres résonances. Et c'est ça, c'est cette partie invisible, je dirais, et inaudible ou indicible, qui me paraît faire tout l'intérêt du haïku.
Sur le vieil étang, une grenouille s'élance, ploc, dans l'eau.
Le vieil étang, le bruit d'une grenouille qui saute dans l'eau.
Le son de la grenouille qui plonge dans l'étang, elle plonge en même temps dans nos mémoires et elle y fait des ronds, là, je trouve. Le vieil étang, tout le monde a en tête un vieil étang. Et c'est en ça que le haïku est formidable, c'est qu'il fait appel chez le lecteur à tout son réservoir d'images et de sensations, et chaque lecteur de ce poème va l'habiller d'une façon différente. C'est ça la force du haïku. C'est que le lecteur a un rôle actif dans la lecture. Le bon lecteur d'un bon haïku, si on peut dire. Le lecteur va plonger lui-même dans ce texte et va l'illustrer, l'habiller. Et le haïku réussi est celui qui traduit un peu ces moments de grâce qu'on a tous plus ou moins vécus. Souvent dans l'enfance. Et il va nous faire réhabiter ce genre de moment.
Le vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l'eau.
Le vieil étang, une grenouille y plonge. Ah, quel bruit!
Je crois que les Japonais n'avaient pas d'image du tout poétique de la grenouille, mais justement, il y a aussi une chose à laquelle ils sont très très sensibles dans cette culture extrêmement formelle, c'est au petit détail qui va provoquer l'étonnement. Et je pense que l'étonnement, c'est un des facteurs essentiels de l'art du haïku. Et donc, effectivement, il y a cet étonnement d'avoir choisi une grenouille. Donc, à l'époque, ça a dû sembler tout à fait novateur. Et puis, du coup, cette grenouille qui est un personnage inexistant dans la poésie antérieure et qui tout à coup fait un floc en sautant dans le vieil étang. Alors là, ça déstabilise, non, mais ça étonne tout simplement. Donc, je pense qu'il y a eu ce facteur, disons, d'émerveillement. D'autre part, d'après les spécialistes japonais, c'est à partir de ce poème, enfin ce poème, il avait écrit beaucoup de haïkus avant, mais apparemment c'est au moment où il a composé celui-là qu'il a eu comme une sorte d'éveil, enfin, c'est-à-dire tout à coup une vision de son intelligence ou de sa sensibilité poétique, que l'art du haïku c'était ça. Justement, cette opposition entre le côté complètement marécageux et presque inquiétant du vieil étang et l'élan de cette grenouille qui finit par symboliser la vie dans son jaillissement. Pour lui, je pense que c'était une forme d'éveil, et pas seulement un éveil poétique, mais un éveil au niveau spirituel. Et comme il a écrit, enfin, lui-même n'a pas tellement écrit de traités sur le haïku, mais il était entouré d'une foule de disciples qui ont recueilli ses paroles, on considère au Japon, chez les spécialistes du haïku, que cette histoire de grenouille et de vieil étang, c'est vraiment à la fois la cristallisation et le point de départ de l'esthétique de Basso en tant que haïkiste. Je crois que c'est ça.
Le vieil étang. Une grenouille plonge. Bruit de l'eau.
Dans le vieil étang, une grenouille plonge, un ploc dans l'eau.
Il y a un certain mystère qui plane sur la composition de ce haïku, mais il était en présence d'un certain nombre de ses disciples quand lui est venue l'idée de composer ce poème. Et d'après le disciple qui a relaté les circonstances de cette composition, Basso a commencé à écrire les deux dernières mesures. Donc, une grenouille saute, bruit de l'eau. Et après, simplement, il interroge ses disciples, il dit, qu'est-ce que je pourrais bien mettre en premier vers? Vous avez une idée, vous? Et il y en a un qui dit, oh ben oui, on pourrait mettre jaune fleur de ketmi, la ketmi étant une fleur particulière de la botanique japonaise. Et puis lui dit non, moi ça me plaît pas, finalement je vais mettre vieil étang.
Dans la brume de l'aube tournoie le son de la cloche.
Kane kiete. Hana no kawa tsuku yūbe kana.
La cloche se tait, le parfum des fleurs en écho. Ah, quelle soirée! L'alouette chante et en contrepoint s'élève le cri du faisan.
Il y en a un fameux là qui me revient en tête en vous écoutant. C'est En voyage.
Hervé Collet.
Il est dans une auberge, dans le nord du Japon, et il écrit « Le cri du faisan, de père et mère, le souvenir m'envahit. » Le cri d'un faisan. Je vois plus chez Basho des sons uniques. La grenouille dans l'étang, le cri du faisan, et surtout le coucou. À Kyoto, rêvant de Kyoto. Et il ajoute le coucou. Au cri du vendeur de sèche se mêle le coucou. Rapprochement entre deux sons. Là, magnifique, le cri du vendeur de sèche et le coucou. Et le coucou a un rôle particulier dans la poésie japonaise, dans le haïku, mais il a un rôle particulier tout simplement dans la vie. Nul autre, le coucou donne plus le sens de la profondeur du paysage. Il est toujours assez lointain, le coucou. Et on le sent loin, d'ailleurs. Et il donne justement le sens de la profondeur, de l'épaisseur du paysage.
Dans la possession de Yamagata, il est un monastère de montagne du nom de Ryushakuji. Fondé par le grand maître Jikaku, c'est un lieu plus qu'aucun autre empreint de sérénité et de paix. Il fallait l'avoir au moins vu, m'avait-on assuré, et par conséquent, j'y fis un crochet en partant d'Obanazawa. La distance est d'environ 7 lieues. Le jour n'étant point tombé encore. Au pied de la montagne, je demandai l'hospitalité au logis des pèlerins, puis je montai aux édifices du haut. De rochers entassés sur des rocs est faite la montagne. Les pins et les cèdres sont chargés d'ans. La terre et la pierre ont un aspect antique. La mousse est moelleuse. Les portes des bâtiments dressés sur les rochers étaient closes et l'on n'entendait nul bruit. Je fis le tour de l'arête, me hissai sur les rochers et m'inclinai devant les sanctuaires des Bouddhas. Le paysage était splendide et je sentais un total détachement envahir mon cœur. Ah, le silence. Évrille, évrille le roc, le cri des cigales.
On le retrouve sur les routes, donc, un an et demi plus tard, en 1689. Le démon du voyage le pousse à nouveau sur la route. J'insiste beaucoup sur les voyages parce que c'est vraiment ça qui le nourrit.
Alain Kervert.
Et il fait un périple de 2340 km à pied. À un moment, il a besoin de marcher. Et il part avec Sora, qui est son ami, Donc, il remonte vers le nord. Il s'arrête à Nikko, que tous les Japonais connaissent, aux sources thermales d'Izuka. Ils arrivent à Sendai, donc dans le nord, là. Et ils admirent, lui et ses amis, le célèbre site de Matsushima. Et alors, il arrive devant la forteresse de Hiraizumi. Hiraizumi est une place forte importante, puisque dans l'histoire du Japon, s'est déroulé là un drame, un massacre très célèbre. Et effrayant, puisque c'est la jalousie qui pousse Yoritomo no Minamoto, donc au XIIe siècle, à y tuer son frère et le clan de son frère, Yoshitsune, puisque il avait pris ombrage des hauts faits militaires de son frère. Alors donc, il y a une atmosphère de drame, si vous voulez, sur ce lieu, et c'est vrai que Basho, qui va sur ces lieux 500 ans après Saigyo, qui est son modèle, qui est ce moine devenu poète errant et qui est allé lui-même aussi dans ce château, mais sur ces lieux. Mais Saigyo, lui, est un ancien militaire et il a sur ce lieu une vision, disons, technique de militaire. Et c'est un vrai moine, donc il y a le détachement et ce sentiment de l'impermanence de toute chose, le fameux Mujo-kan, que Basho a aussi. Mais Basho, lui, vous verrez, il n'arrive pas. Il voudrait être détaché des biens de ce monde, mais lui n'y arrive pas. Et il serait intéressant de voir ce que dit, par exemple, Saigyo en parlant de Hiraizumi. Ayant atteint Hiraizumi, le 12e jour de la 12e lune, neige, tempête et mauvais temps m'accueillent. J'allais voir la fameuse rivière Koromo, que j'ai toujours rêvé de contempler un jour. Arrivé sur la berge, les détails de l'architecture du château qui s'y trouve, excitèrent ma curiosité au point que je m'absorbais dans leur observation. La berge était gelée et l'eau particulièrement glaciale. Tant de froidure me perce le cœur, clair et glacé, la rivière Koromo, je suis ce jour venu voir. C'est-à-dire que Saigyo, lui, était animé par effectivement un sentiment, lui, vraiment bouddhiste, de détachement des biens de ce monde, tout n'est qu'illusion ici. Et dans son recueil de la demeure des montagnes, il écrit ceci: « Si je ne perçois pas le réel comme tel, à plus forte raison, ne pourrais-je percevoir le rêve comme étant rêve ?» Voilà dans quel, évidemment, état d'esprit l'on est. Basho, lui, c'est pas du tout la même chose. Quand il arrive sur le même lieu, c'est intéressant de voir comment il réagit. Alors c'est beaucoup plus ampoulé, sentimental et plein d'artifices. On est dans un Basho tout à fait différent. Parce que lui, il est ému par l'atmosphère de drame. Vous avez vu comme c'est très froid, le commentaire de Saigyo. Ainsi donc, l'élite des vassaux fidèles dans le château s'était retranchée. Mais le bruit de leurs exploits n'eut qu'un temps, et les herbes couvrent leurs traces. L'état détruit, il reste monts et fleuves. Sur les ruines du château, le printemps venu, l'herbe verdoie, me récitais-je. Et assis sur mon chapeau, oubliant le temps qui passe, je versais des larmes. Natsu tsaya, tsuamono domo ga, yume no ato. Natsu tsaya, tsuamono domo ga, yume no ato. Herbe roussie de l'été, des valeureux guerriers, trace d'un songe. On est presque dans du Shakespeare.
Depuis que je me suis retiré de la ville, près de 10 ans ont passé. Et voilà que la cinquantaine approchant, Minomushi, qui aurait perdu son abri de brindilles, colimaçon qui aurait quitté sa coquille. J'ai brûlé mon visage au chaud soleil de Kisakata, dans les provinces du Nord. J'ai usé mes talons sur les rudes grèves de la mer septentrionale aux hautes dunes qui rendent la marche pénible. Et cette année-ci, j'erre sur les bords du lac. Pareil au grèbe qui se fit à l'ombre tutélaire des roseaux pour défendre du courant son nid flottant, j'ai réparé la couverture de l'auvent, j'ai consolidé la palissade, et j'en viens à me dire que je ne quitterai de sitôt ces montagnes où je m'étais, au début de la lune des deux tsi, engagé pour peu de temps. Comme il se doit, il subsiste un relent de printemps. Quelques azalées fleurissent encore, les glycines de montagne s'accrochent au pin, de temps à autre passe un coucou, un jet parfois me vient rendre visite, si bien que le martèlement même du pivert n'est pas pour me déplaire et que, transporté d'allégresse, mon esprit court de go en saut et d'est en ouest, comme si je me tenais sur les bords des rivières Chaux et Chaux ou du lac d'Auteuil. La montagne se dresse au sud-ouest. Les demeures des hommes se trouvent à bonne distance. Le suave vent du sud descend des cimes et le vent du nord se rafraîchit aux eaux du lac.
Quand il revient des provinces du nord, de Hoku, il va s'installer près de Kyoto sur les rives du lac Biwa, dans un ermitage qui s'appelle, c'est pas lui qui a donné le nom puisqu'il existait déjà, l'ermitage d'Illusion. Et sur cet ermitage, il a fait un assez long récit. Ça nous donne un peu le sentiment de Basho quelque temps avant la fin de sa vie. Il dit des hommes, je suis là. Et il écrit d'ailleurs un haïku célèbre là-dessus. Chaque année, le singe arbore son masque de singe. Il est un peu là des hommes, Basho, à la fin de sa vie, mais il va réfléchir à ça. Il avait carrément fermé la porte de son ermitage, il voulait plus voir personne. Et il va réfléchir à ça, il va à nouveau ouvrir sa porte et on va concevoir un nouveau concept pour la composition des haïkus qui est celui de Karumi qui signifie légèreté. Il a compris qu'il faut être léger, non seulement en poésie mais dans la vie aussi. Léger, c'est-à-dire s'accorder au cours des choses. Il applique ça dans sa vie, il applique ça dans sa poésie et c'est ce qu'il recommande à la fin de sa vie à ses disciples, soyez légers. C'est-à-dire, pas d'artifice, pas d'ornementation. Écrivez ce que vous voyez, juste l'expérience, pure expérience. Et c'est ça qui marque la fin de sa vie, cette notion de légèreté, légèreté vitale. On est presque dans un art martial, hein. C'est la légèreté du judo, de l'aïkido, c'est-à-dire le juste équilibre.
Kusa no ha o otsuru yori tobu hotaru kana.
Tombée d'un brin d'herbe, elle s'envole à nouveau, à la luciole.
Arato oto, aoba wakaba no hi no hikari.
À pure merveille, feuille verte, feuille naissante, au soleil qui brille.
Non point que je tinsse pour autant à jouir à jamais de la solitude, ni à dérober mes pas par monts et par vaux. Quelque peu maladif, la société des hommes me pèse, et je ressemble en cela à ceux qui ont renoncé au monde. Quand je médite sur les misérables erreurs que j'ai commises au fil des ans et des mois, j'envie parfois la sécurité qu'assure un emploi. Et si parfois je fus tenté de franchir la porte de la retraite du Bouddha ou de la cellule du fondateur, je me tourmente au gré des vents et des nuages, sans but, je m'emploie à chanter les sentiments qu'évoquent les fleurs et les oiseaux, et j'en ai même pour un temps fait le moyen de sustenter ma vie, si bien qu'en dépit de mon absence de capacité et de talent, j'ai fini par m'attacher à cet art. Rakuten s'y est brisé le corps et l'esprit. Tôt l'ancien en avait maigri. Intelligence et sottise, artifice et naturel, ne sont également partagés. Mais ce monde n'est-il point demeure d'illusion? Là d'y réfléchir, je me suis couché. À l'ombre me fit des chênes tutélaires au bosquet d'été.
Tabi ni yande, yume wa kare no o kake meguru.
Malade en voyage, mon rêve est de parcourir la lande desséchée. Ce verset, composé durant sa maladie, est le dernier qu'il fit. Une autre façon de le dire serait « En rêve encore, je crois courir ça et là. Qu'en pensez-vous » avait-il demandé à ses disciples. Après quoi, il se décida pour cette version-là.
Malade en voyage, mon rêve erre sur la lande flétrie. Et curieusement, son rêve erre encore. Donc, à la fin de sa vie, Basho est à Osaka. Il est hébergé par un de ses disciples. Et quand on dit ses disciples, ce sont toujours des gens qui ont des professions. Celui-là est marchand à Osaka. Sentant sa fin proche, il cesse de manger, se lave et fait brûler de l'encens. Il a autour de lui 5 ou 6 disciples qui sont accourus à son chevet. Et il écrit un mot tout simple à l'intention de son frère, qui est le suivant, son frère aîné. Tu seras sans doute attristé que je parte avant toi. J'espère que tu atteindras un grand âge, grâce à la protection de ton fils Mataemon, et achèveras ta vie dans la paix et le calme. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Le séjour de Basho dans ce monde flottant se termine le 12e jour du 12e mois de 1694, et conformément à son vœu, on va l'inhumer près d'un monastère, au bord du lac Biwa, près de Kyoto, et sur sa tombe, ses disciples plantent un bananier, un basho.
Inazuma ni satoranu hito no totosa yo.
Une vie, une œuvre. Matsuo Basho, une émission de Christine Rey. Avec Hervé Collet, co-traducteur de A Kyoto, rêvant de Kyoto, Mundaren. Alain Kerverne, auteur de Basho et le haïku, Bertrand Lacoste. Dominique Palmé, traductrice de poètes et romanciers japonais. Daniel Struve, chargé de cours à Paris 7, spécialiste de l'époque d'Edo. Voix, Bernard Gabet, Françoise Henry, Katsuko Nakamura. Texte, journaux de voyage, le haïkai selon Basho et le manteau de pluie du singe aux publications orientalistes de France. 111 haïkus, Verdier, à Kyoto, rêvant de Kyoto, Mundaren. Prise de son, Benoît Gaspard, Xavier Atto, Georges Sautour, Georges Thau. Mixage, Jean-Marc Potry. Réalisation, François Connac.